Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Écuménisme et dialogue interreligieux au menu de ce magazine. En fin de semaine, le chef spirituel des Anglicans rencontrera le pape François pour la première fois au Vatican, tandis qu'avec les luthériens, le dialogue s'intensifie à l'approche de l'anniversaire de la réforme. Dans cette émission, vous entendrez également le directeur de l'IDEO, un lieu incontournable de la recherche intellectuelle et du dialogue au Moyen-Orient. Il a été créé il y a 60 ans au Caire, en vue d'une meilleure connaissance entre chrétiens et musulmans. Nous verrons par ailleurs qu'un haut responsable du Saint-Siège, le cardinal Jean-Louis Torrent, entame une visite en Grande-Bretagne. L'objectif est de réaffirmer et de consolider les bonnes relations avec les hindous et les sikhs. L'archevêque de Canterbury, chef spirituel de 80 millions d'anglicans dans le monde, sera reçu par le pape François ce vendredi 14 juin au Vatican. Il s'agira de leur première rencontre, comme le Saint-Père, Justin Welby, a lui aussi récemment entamé son ministère, il y a un peu plus de 2 mois. Les deux chefs religieux s'entretiendront d'abord en privé, puis ils échangeront des discours et enfin à midi, ils présideront un bref office liturgique. Thomas Chabol.
L'occasion est bien choisie pour un état des lieux des relations bilatérales. Même si des dossiers comme l'ordination des femmes séparent fortement les églises catholiques et anglicanes, les points de convergence entre leurs nouveaux chefs ne manquent pas, à commencer par la justice sociale et la lutte contre la pauvreté. Tous deux sont favorables à une moralisation des marchés financiers. Alors que la communion anglicane est au bord de l'explosion, écartelée entre différentes tendances conservatrices et libérales, Justin Welby s'efforce de favoriser la réconciliation et la recherche de solutions au conflit. Il aime répéter que les désaccords ne sont pas forcément destructeurs. Quant au rapport avec l'Église catholique, il a indiqué dans une interview qu'il souhaiterait que les évêques et les prêtres anglicans soient officiellement reconnus par l'Église catholique. Selon lui, les deux églises doivent travailler ensemble pour l'évangélisation de l'Europe, pour la protection de la vie dès sa conception et pour la solidarité et la justice. Catholiques et anglicans doivent unir leurs forces pour offrir à la société une orientation morale claire. Pour cette visite, brève mais importante sur le plan œcuménique, Justin Welby a demandé à l'archevêque catholique de Westminster de l'accompagner.
Au cours de sa visite, le primat de la communion anglicane se rendra sur la tombe de Saint-Pierre dans la crypte de la basilique. Il a souhaité également pouvoir se recueillir sur la tombe de Jean-Paul II. Il rencontrera le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Le cardinal Koch, qui poursuit quant à lui sa visite en Ukraine jusqu'au 12 juin, lundi prochain à Genève par ailleurs, il participera à une conférence de presse sur les conclusions de la rencontre de la Fédération luthérienne mondiale chargée d'organiser les célébrations du 5e centenaire de la réforme en 2017. Au mois de février, souvenez-vous, le cardinal suisse avait révélé que catholiques et luthériens s'apprêtaient à publier une déclaration commune, un document de 30 pages en plusieurs langues, une sorte d'état des lieux, fruit de 4 années de travail de la commission bilatérale pour le dialogue dans le cadre des 500 ans de la réforme. C'est une présence prestigieuse que la famille dominicaine a fêtée ce dimanche au Caire. Fondée en 1953 dans la capitale égyptienne, l'Institut dominicain d'études orientales, l'IDEO, a célébré ses 60 ans en compagnie du patriarche copte orthodoxe Tawadros II et du grand imam d'Al-Azhar, Ahmet Al-Tayeb. Le lieu est une bulle d'oxygène dans l'Égypte actuelle en proie aux tensions. Aujourd'hui, une douzaine de frères dominicains administrent l'Institut avec le souci de conjuguer approfondissement du passé et ouverture vers l'avenir. Le père Jean-Jacques Pérennes, directeur de l'IDEO, revient sur cet héritage.
L'IDEO a été créé officiellement en 1953 par l'ordre dominicain qui répondait en fait à une demande du Saint-Siège qui datait de la fin des années 40, même la fin des années 30. Le Saint-Siège avait souhaité que l'Église catholique crée un lieu de connaissance de l'islam par le biais de sa culture, pour essayer de dépasser les malentendus de la compréhension mutuelle lorsque on se place à un plan directement religieux. Et donc l'ordre dominicain a accepté cette mission, a formé des spécialistes, en particulier le Banawati, qui était présent à Vatican II, qui a beaucoup contribué, entre autres, à Nostra Aetate durant le concile, et dont l'Institut s'est mis en route avec une équipe de dominicains spécialisés en langue arabe, connaissant les sciences de l'islam, ayant chacun des spécialités. Donc nous célébrons maintenant 60 ans d'existence, et 60 ans pour nous, c'est pas l'âge de la retraite, c'est au contraire l'âge de la maturité.
Cette présence dominicaine au Caire se veut comme une passerelle vers le monde arabo-musulman?
Oui, chacun voit aujourd'hui que les relations entre le monde musulman et l'Occident, et a fortiori le christianisme, sont souvent complexes, pour ne pas dire difficiles. Donc il faut essayer de trouver des lieux où on se rencontre, si possible dans l'amitié, et au Caire, nous avons pu créer ce lieu de travail ensemble. Nous avons une très très belle bibliothèque spécialisée, que les chercheurs égyptiens du Moyen-Orient apprécient beaucoup. Nous essayons aussi d'offrir un climat d'amitié, de respect mutuel, et en fait, ça se passe très bien.
Vous avez, je crois, de très bonnes relations avec la prestigieuse université Al-Azhar.
Oui, ces relations datent de la fondation de l'Institut, du père Anawati. Les oulémas d'Al-Azhar ont toujours apprécié le sérieux que nous mettons dans la connaissance de l'islam et le fait aussi que nous appréhendions cette religion en dehors de tout souci de prosélytisme, une sorte d'honnêteté à laquelle ils sont très sensibles. Donc c'est pour cela que nous avons invité le grand imam à être présent à cette célébration. De même que le pape copte orthodoxe, le pape Tawadros, qui d'ailleurs était récemment à Rome pour visiter le pape François. Et je dirais que dans le contexte actuel de l'Égypte, qui est un peu crispé en effet au niveau politique, d'une certaine manière, à la fois Al-Azhar et le patriarcat copte orthodoxe sont plutôt des lieux de modération.
Parmi vos projets, un partenariat avec l'Union européenne pour approfondir des œuvres du patrimoine intellectuel du monde arabe, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, nous avons évidemment dans cette bibliothèque plus de 150 000 ouvrages et beaucoup de textes sources du patrimoine arabo-musulman. Mais nous constatons que beaucoup de nos lecteurs, musulmans presque tous, font une lecture un peu aplatie de ces textes, c'est-à-dire qu'ils liront un auteur du XIIIe siècle comme s'il avait écrit maintenant. Or, les contextes historiques ont beaucoup changé. Donc nous avons lancé un projet de recherche que l'Union européenne a accepté de soutenir et où il s'agira pendant 3 ans d'essayer de mettre en contexte 200 grands auteurs pour montrer que ces auteurs, ils ont écrit à une certaine période, dans un certain contexte, qui a à la fois des antécédents intellectuels mais aussi une postérité intellectuelle. Un auteur peut avoir été réfuté, ensuite repris par d'autres. Donc voilà, nous essayons d'une certaine manière de déjouer un fondamentalisme, une lecture trop littéraliste, en mettant en perspective historique ces grands auteurs.
Si vous deviez résumer en quelques mots le sens de ces 60 ans de présence au Caire, que diriez-vous?
Je dirais que la rencontre de l'autre est possible, elle peut être une source de joie. Et c'est ce que nous voulons transmettre comme message à un moment où l'Égypte, en effet, traverse des moments pas faciles et où même à l'échelle mondiale, l'islam est source de grandes préoccupations. Nous voulons donner le témoignage de la possibilité de la rencontre de l'autre de façon détendue et heureuse, sans naïveté non plus.
Des propos recueillis par Olivier Benel. Et dans un communiqué diffusé dimanche par l'agence égyptienne MENA, l'université Al-Azhar, la principale institution sunnite, déclare attendre une réponse du Saint-Siège au message de vœux qu'elle a envoyé après l'élection du pape François. La reprise des rapports avec le Vatican, indique le communiqué, dépend, je cite, des gestes positifs et sérieux qui doivent être posés pour démontrer clairement le respect de l'islam et des musulmans. Fin de citation. Récemment, un conseiller diplomatique de l'université Al-Azhar avait assuré qu'avec le nouveau pape François, ce serait plus facile de rompre la glace avec le Vatican. Il avait accusé Benoît XVI d'être seul responsable des incompréhensions entre catholiques et musulmans. Des propos accueillis avec prudence et scepticisme par le cardinal Jean-Louis Torrent, président du conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, dans une longue interview à l'agence France-Presse. Le compte-rendu d'Olivier Tosseri.
C'est l'université Al-Azhar, rappelle-t-il, qui a décidé de geler les relations avec le Vatican en 2011. À la suite de l'attentat contre une église d'Alexandrie, Benoît XVI avait lancé un appel à protéger les chrétiens, ce qui avait irrité le régime égyptien et la plus haute autorité de l'islam sunnite. Le cardinal Torrent confie qu'il a fait plusieurs tentatives de contact, mais ça n'a jamais marché. Le problème, ce n'est pas nous, ajoute-t-il. La porte est toujours ouverte aux musulmans, mais on ne peut pas dialoguer sur l'ambiguïté. Le haut responsable du Saint-Siège s'exprime sans détour. On ne peut pas passer sous silence les conditions souvent discriminatoires que vivent les chrétiens dans le pays, à majorité musulmane. Il y a des sujets, comme les conversions, sur lesquels on ne peut pas traiter avec nos partenaires, constate-t-il. Dans cette même interview à l'AFP, le président du Conseil pour le dialogue interreligieux fait part de son inquiétude au sujet de la situation au Moyen-Orient. Selon lui, le Liban, patrimoine de convivialité, risque de payer la facture du conflit syrien. En revanche, en Afrique, particulièrement au Nigeria, ensanglanté par les attentats islamistes de Boko Haram, la violence, selon son analyse, est importée.
Interrogé sur le nouveau pape argentin, le cardinal Torrent est frappé par son insistance sur la miséricorde. Ce pape, dit-il, nous donne beaucoup d'espérance, il dit des choses magnifiques, mais il y a le danger de banaliser sa parole par une médiatisation excessive. Le cardinal Torrent n'oublie pas non plus cet intellectuel d'une élégance rare qu'était Joseph Ratzinger. Selon lui, le discours de Benoît XVI en 2011 devant le Bundestag, le Parlement allemand, devrait être enseigné dans toutes les facultés de droit du monde. Du 12 au 16 juin, le cardinal Jean-Louis Torrent effectuera une visite officielle en Grande-Bretagne. Le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux rencontrera les communautés hindoues et sikhes. Au programme de cette visite figure notamment une prière interreligieuse pour la paix jeudi dans le hall de la cathédrale de Westminster. Elle sera placée sous le thème « Ensemble en prière pour la paix ». Le cardinal français se rendra également à Birmingham où il visitera un temple sikh et où il présidera les vêpres dans la cathédrale catholique de la ville. Dernière étape dimanche, avant son retour à Rome, la messe. En la cathédrale de Westminster, le cardinal Torrent prononcera l'homélie. En France, des églises ont été vandalisées et profanées, dans la cathédrale Saint-Pierre de Nantes notamment. Les dommages ont défiguré une partie du chœur ainsi que l'autel le plus ancien. Selon le préfet de Loire-Atlantique, il y a des inscriptions obscènes, des dessins sataniques, des évocations à caractère nazi. Une statue a été cassée et des petites moustaches d'Hitler dessinées sur les portraits des anges. La nuit précédente, c'est la cathédrale de Limoges qui avait été visée. L'inscription « Droit canonique égale charia » avait été portée au niveau du portail d'entrée. Le ministre français de l'Intérieur Manuel Valls a apporté son soutien entier à la communauté catholique dont il comprend et partage l'émotion et l'indignation devant ces actes intolérables de profanation. Les forces de police sont mobilisées pour que les auteurs de ces faits abjects soient déférés à la justice dans les meilleurs délais. Ces actes soulèvent bien sûr l'indignation dans la communauté catholique, mais l'Église ne souhaite pas jeter de l'huile sur le feu. Samedi, l'évêque de Nantes, Mgr Jean-Paul Jamme, a présidé une prière de réparation dans la cathédrale tout en invitant à ne pas exacerber les tensions. La liberté religieuse, écrit-il, est aussi notre bien commun. Dans ce climat, les chrétiens doivent refuser d'entrer dans une spirale de violence. Dans la foi, ils croient que la haine est vaincue par l'amour. Enfin, les amis de la cathédrale de Nantes ont exprimé leur tristesse. Lieu de recueillement et de paix, ouvert à tous, ce sanctuaire a été récemment rénové. Cet acte porte, selon eux, une atteinte grave à la liberté de culte et au respect des croyances. L'Ordre de Malte rassemble des médecins, des juristes, des théologiens, des scientifiques et des philosophes catholiques cette semaine à Rocca di Papa, près de Rome. Venus d'une soixantaine de pays, ils vont discuter pendant 6 jours de la situation des handicapés jusqu'au 14 juin dans le cadre du colloque mondial de l'Association internationale des spécialistes catholiques de la bioéthique, fondée en 2005. Ils appartiennent à des disciplines différentes, mais ils sont liés par leur appartenance catholique. L'objectif de cette 6e édition est d'élaborer des réflexions éthiques et des recommandations concrètes pour soutenir et assister les handicapés et leurs familles. Ils espèrent mettre au point un document visant à sensibiliser les systèmes de santé et les législations nationales. Les progrès de la médecine et la culture de la productivité et de l'efficacité accentuent la marginalisation des handicapés, souligne l'Ordre de Malte. Trop souvent, leurs besoins et leurs capacités ne sont pas reconnus et mis en valeur. Ils sont donc particulièrement vulnérables. serait près de 400 à être toujours prisonniers dans le Sinaï, enfermés dans de petites cabanes au milieu du désert. Pour les libérer des mains de leurs ravisseurs, leur venir en aide et prévenir de nouveaux rapts, le cheikh Mohamed Ali Hassan Awad est venu en Italie, invité par la communauté catholique Sant'Egidio et soutenu par le gouvernement italien. Cet égyptien salafiste de 32 ans appartient à une tribu respectée du Sinaï, établie non loin du point de passage de Rafah. Il tente depuis plusieurs années de sauver ses Érythréens, pris en otage et torturés par leur ravisseur. Marie Duhamel l'a rencontré.
C'est en 2006 que tout commence. Des migrants d'Afrique subsaharienne, des Érythréens essentiellement, quittent leur pays pour rejoindre Israël. Au départ, pendant 2 ans, pas de heurts. Les migrants s'adressaient à des tribus soudanaises qui elles-mêmes contactaient d'autres tribus vivant près d'Israël. Pour une somme allant de 200 à 400 dollars, les migrants étaient conduits jusqu'à leur terre promise.
Ils étaient tous contents. Ceux qui organisaient le trafic se prenaient l'argent. Ceux qui voulaient arriver en Israël y parvenaient sans heurts. Et puis un jour, certains passeurs ont augmenté les prix et les Africains ne pouvaient plus payer. C'est à ce moment-là qu'a commencé la torture.
Les trafiquants ont commencé par obliger les migrants à rester immobiles, debout, pendant des heures. Sans résultat, ils ont commencé alors à utiliser le bâton, exigeant entre 1 000 et 3 000 dollars. Alors, les Africains ont fait payer leurs familles. Le début d'un cercle vicieux, la torture fonctionnant pour obtenir les rançons. Les ravisseurs ont demandé toujours plus d'argent, réclamant jusqu'à 30 000 dollars. La torture elle-même évoluant. On brûle du plastique sur leur corps, les femmes sont violées. Parfois, ils attachent plusieurs personnes ensemble, raconte le cheikh Hassan Awad. Leurs ravisseurs les arrosent d'eau pour ensuite les électrocuter. À peine torturés, on leur passe un téléphone pour qu'ils appellent leurs proches.
L'unique chose qui intéresse les trafiquants, c'est que les familles des personnes qu'ils transportent, ou plutôt des otages, payent. Torturer, violer, frapper, c'est pas important. Ce qui compte, c'est d'obtenir la somme exigée.
Payer la rançon exigée ne fait qu'empirer les choses, constate le salafiste. Les familles qui payent n'ont pas pour autant retrouvé leurs proches vendus à d'autres trafiquants. Autre cercle vicieux dont sont victimes ces migrants, retenus prisonniers dans des cabanes au milieu du désert. Certains otages parviennent à échapper à la garde des trafiquants, mais libres, les voilà qui errent dans le désert, sans eau ni nourriture. Et s'ils arrivent jusqu'à la frontière entre l'Égypte et Israël, ils peuvent essuyer les tirs des soldats égyptiens, se faire arrêter par ces soldats et finir en prison. L'entrée en Israël leur est toujours refusée. Plus chanceux, certains otages ont rencontré le cheikh Hassan Awad.
Parfois, ils réussissent à s'échapper quand leur garde est en train de dormir. Nous venons à leur rencontre et nous les prenons avec nous pour les soigner. On ne les rend jamais à ceux qui les réclament.
Certains parlent de réseaux encore solides, mais selon lui, il n'y aurait plus qu'une vingtaine de preneurs d'otages, des jeunes de 20-25 ans, qu'ils ont mis en quarantaine. On n'achète pas leurs produits, on ne leur vend pas nos produits. Dans le Sinaï, nous ne sommes pas tous mauvais. Dans chaque peuple, il y a des bons et des méchants, explique le cheikh.
Parfois, on les libère de leur prison. Ces personnes sont détenues dans des cabanes au milieu du désert et là, il n'y a qu'un garde armé.
Sa voiture a été incendiée, sa maison a essuyé des tirs à balles réelles. Au risque de sa vie, Cheikh Hassan Awad aide ses migrants à 90% chrétiens pour Dieu, pour empêcher l'injustice.
On leur demande pourquoi ils veulent aller en Israël, pourquoi ils fuient leur pays. Ils répondent que leur pays est une dictature, que le gouvernement dictatorial se comporte mal et les oblige à effectuer un service militaire très dur.
Plus que la pauvreté bien réelle en Érythrée, il fuit le manque de liberté, car sur place, tous les jeunes sont enrôlés à vie dans l'armée, exploités à vie. Et s'ils finissent en prison, c'est la fin, car il n'y a pas de juge, pas d'avocat, pas de procès.
C'est ainsi que s'achève notre émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous lire et nous écouter à tout moment sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va. Retrouvez-nous également sur Facebook, Radio Vatican en français, ainsi que sur Twitter et sur nos applications. Merci de votre fidélité.